les fondations d'entreprises, moteurs de l'insertion sociale par l'économie, et l'agence d'information Reporters d'espoir pour promouvoir et modéliser cette nouvelle forme de développement. Tel est, en résumé, ce que propose Fondation solidaire pour l'emploi, Histoire des possibles, un ouvrage édité par Reporters d'espoir en lien avec les quatre grandes fondations d'entreprise : la Mondiale, la fondation d'entreprise Veolia Environnement, la Fondation Solidarité de la Société Générale et la Fondation d'entreprise Vinci pour la Cité. Les explications de ce modèle avec Jean-Marc Borde, directeur général de Reporters d'Espoir, et Claude Alfandéry, aujourd'hui également directeur du Laboratoire de l'économie sociale et solidaire. Un reportage de Pascal Marcaggi.
Claude Alfandéry, vous êtes le papa de l'économie sociale et solidaire. Comment est-ce qu'elle est née ? Je vous le tiens.
Écoutez, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle est née depuis très longtemps. Enfin, il y a toujours eu au sein des projets économiques qui avaient aussi une dimension sociale. Comment peuvent-ils avoir cette dimension sociale dans l'économie moderne, dans l'économie globalisée, dans l'économie financiarisée, qui a des succès formidables, mais en même temps aussi des effets tout à fait dévastateurs sur le chômage, sur les inégalités, la dégradation du développement. Voilà, alors on a l'impression qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont ce souci du social, du développement durable. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours dans la logique de l'entreprise, c'est pas toujours dans la logique du profit, mais en même temps, on voit bien aussi que s'il n'y a pas une confiance, s'il n'y a pas une cohésion sociale dans l'entreprise, les choses ne marchent pas bien. Donc il y a vraiment un modèle à trouver, une passerelle entre le social et l'économique, je le disais aussi, entre le mondial et l'économie locale, qui est très très importante, qui est très proche des besoins.
Redites-le pour l'auditeur, au début, l'économie sociale et solidaire était essentiellement sociale, issue du Conseil national de la Résistance, avec notamment un travail sur les femmes.
Je disais que le programme du Conseil national de la Résistance, on le comprend bien, c'était un peu par opposition, bien entendu d'abord au régime de Vichy et à l'occupation, mais aussi à la Troisième République, qui avait été une république parlementaire, qui ne s'est pas beaucoup occupée du social. Donc notre idée était la démocratie sociale, mais une démocratie sociale qui reposait essentiellement sur les initiatives de l'État, la sécurité sociale, les services publics, une fiscalité progressive, une planification. Et on s'est aperçu assez rapidement que ça a permis des avancées formidables, mais ça avait ses limites. Il fallait aussi qu'il y ait, que la société civile puisse inventer des choses, puisse sortir du carcan de la comptabilité nationale. Et c'est ce qui s'est passé après après le choc pétrolier, où l'économie a tout de même été très très fortement ébranlée, où on a vu ses limites. D'où ce développement de l'économie sociale et solidaire, et plus particulièrement le volet de l'insertion des personnes en difficulté. Mais pas seulement ce volet-là, parce que pour créer une entreprise qui recrute des gens en difficulté, il faut tout de même innover en matière d'organisation du travail. C'est pas n'importe qui comprend. Il faut innover en matière de formation, en matière d'accompagnement de gens qui ont subi une galère pendant des années, et puis même aussi sur les créneaux d'activité, des créneaux d'activité qui sont souvent ignorés, faute de rentabilité, faute de performance des salariés par le secteur capitaliste. Et donc c'est ça qu'elles ont fait, et ce sont tous les exemples que vous avez entendus tout à l'heure.
Justement, que pensez-vous de Reporters d'Espoir et de son initiative avec les fondations ?
Moi, je pense que c'est, c'est une initiative formidable, parce que ce type d'économie, c'est une économie hybride. Il est sur le marché, c'est un projet économique, ça se vend, il vend des choses. Mais il fait de l'intérêt général, il fait de... Il utilise des gens qui sont au départ pas très productifs, il essaye de les former, vend des services à des personnes dépendantes qui ne peuvent pas les payer très bien. Donc ça ne se paye pas sur le marché. Il faut donc d'autres sources de financement. Alors l'État peut faire des choses, mais il a ses limites, et d'où l'importance de nouveaux outils financiers et des fondations qui viennent apporter leur part de solidarité nationale pour cette partie de l'économie sociale qui, elle, ne se vend pas.
Mais qui représente une économie, parce que quand les gens ne sont plus à charge, à la limite, ils coûtent moins cher, non ?
Il faut tout de même qu'elle soit une vraie économie et qu'elle ait la rigueur d'une économie. Parce qu'elle est tout de même sur le marché, et sur le marché, on ne lui fait pas de cadeaux.
En quoi consiste votre laboratoire d'économie sociale et solidaire ?
Eh bien, c'est d'essayer de regrouper tout ça, d'essayer d'identifier ce qui fait sa valeur, sa valeur éthique, comment elle s'appuie sur des initiatives locales, comment elle peut créer une forme de développement nouveau, pénétrer du durable, du social, de l'environnemental. Et donc pour ça, nous avons essayé de regrouper tous ceux qui font quelque chose, de les mettre en mouvement, de convaincre l'opinion que ça avait une place dans l'économie, que l'économie n'était pas simplement l'économie la plus productiviste, qui est très très utile, faire de grands avions, faire des TGV, etc., mais qu'il y avait une économie relationnelle qui était extraordinairement importante, et que pour ça, la meilleure façon de faire était peut-être de préparer des états généraux qui vont avoir lieu d'une façon assez symbolique en juin au Palais Brongniart, l'ancienne bourse, qui était la bourse des valeurs, et où nous disons ce sera aussi la bourse des nouvelles valeurs, de valeurs qui ne sont pas simplement le profit, mais qui sont aussi former les gens, donner des services nouveaux, innover socialement.
Jean-Marc Borde, vous êtes le directeur général de Reporters d'Espoir. Aujourd'hui, vous ne vous contentez plus des initiatives positives. Vous cherchez aussi à modéliser pour les inscrire, entre guillemets, dans le paysage, si je puis me permettre l'expression.
Oui, ben, comme le disait Claude Alfandéry, c'est vrai qu'on est dans une mutation de l'économie, finalement, parce que ces dernières années, l'économie était vraiment purement financière. C'était la finance, c'était le profit qui était au centre qui était le moteur même de cette économie. Et aujourd'hui, on est en train d'évoluer vers une société où on replace l'homme au centre de l'économie. C'est très symbolique qu'effectivement la bourse, qui de toute façon aujourd'hui n'a même plus de justification en termes de... C'est un bâtiment, mais qui est vide, puisque les profits se font de façon mondialisée, dématérialisée. Et c'est très intéressant, effectivement, que la bourse devienne maintenant un lieu où on redéfinit les nouvelles valeurs de l'économie. Et les nouvelles valeurs de l'économie, c'est vrai que si l'homme n'est pas au cœur de ce qu'il fait, l'économie n'a plus aucun sens. Et donc, c'est vrai que Reporters d'Espoir est tout à fait dans cette démarche-là. Nous, alors évidemment, avec un processus qui est le nôtre, hein. Nous, on est des journalistes, on est une agence d'information. Et donc, notre but, c'est de travailler avec les grands médias et d'ouvrir le plus possible de fenêtres dans ces grands médias sur ces projets, sur ces innovations, parce que c'est vrai que les grands médias sont tellement préoccupés par l'événementiel qui défile, par ces arbres qui tombent et sur lesquels on braque les projecteurs un coup à droite, un coup à gauche, etc., qu'on oublie de regarder qu'il y a une forêt qui est en train de pousser, qui sont toutes ces entreprises, tous ces projets, toutes ces entreprises socialement responsables qui sont en train de changer l'économie et qu'il faut aussi regarder, parce que c'est ce qui nous donne de l'espoir, c'est ce qui donne envie d'être dans ce monde-là, et notamment pour les jeunes qui vont arriver là bientôt sur le marché du travail. C'est très important pour eux de se dire, voilà, on est sur un projet où l'homme est central et pas où on travaille pour on ne sait quel financier ou investisseur abstrait qu'on ne connaît même pas.
Et vous remarquerez que Radio Éthique est plutôt aujourd'hui avec vous que dans des histoires de calcul politique en fonction des élections. Voilà. La modélisation, en quelque sorte, le mot est un petit peu réducteur, que vous avez choisi avec les fondations, en quoi est-ce que ça consiste ?
Alors, les fondations, nous, on était surtout là pour médiatiser les projets qu'elles soutiennent. Hein, voilà. Et aussi, effectivement, pour encourager ce processus qui est de dire que les grandes entreprises, c'est là qu'est la richesse aujourd'hui dans notre pays. On sait très bien que les caisses de l'État sont vides. On nous le répète suffisamment pour que tout le monde le sache aujourd'hui. Donc, il faut prendre l'argent là où il est. Et c'est vrai que les fondations sont un très bon relais pour que l'argent qui est au sein de ces grandes sociétés puisse bénéficier à des projets innovants qui en général sont des petites structures, très locales au départ en tout cas, et qui ont besoin d'être appuyées financièrement, mais aussi sur d'autres plans. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que maintenant les fondations n'apportent pas que de l'argent, elles apportent aussi des compétences, du bénévolat, des débouchés pour ces sociétés, elles peuvent les aider à se développer. Et voilà, c'est vrai que c'est un processus qu'on avait envie d'encourager, d'où ce livre avec les fondations sur les projets qu'elles portent et qui sont des projets d'insertion par l'activité économique.
Par exemple, quelle fondation, par exemple, a soutenu quel projet qui fait que ça redevient efficace ? Parce qu'à un moment donné, certes, l'État n'a plus d'argent, c'est-à-dire le contribuable n'a plus d'argent, tout simplement. Il faut bien trouver la richesse quelque part, voire l'aider à se redévelopper. Il ne faut pas être anti-entreprise. Mais comment est-ce qu'on s'y prend, en fait à...
Alors là, il faudrait plus poser la question aux fondations. Mais c'est vrai que dans le débat qu'on a eu aujourd'hui, on a bien vu que, par exemple, un projet comme Tissons la solidarité, qui consiste à récupérer des vieux vêtements, à les retravailler, à les recoudre, à les remodéliser pour en faire des vêtements à la mode, des vêtements tendance. C'est un super projet qui permet de faire travailler des femmes qui n'ont aucune qualification, qui savent coudre, mais qui n'ont pas d'autres qualifications que ça. C'est un très beau projet, mais qui peut rester très, 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 à échelle très infime s'il n'est pas soutenu financièrement pour créer des emplois, pour créer une structure, pour créer un lieu, pour acheter des machines à coudre. Et ensuite, une fois qu'on a ça, pour se développer, se faire connaître. Et c'est vrai que, par exemple, quand je vois que la Fondation Société Générale a eu cette idée géniale d'organiser un défilé de mode pour les salariés de la Société Générale avec les femmes de Tissons la Solidarité qui portaient les vêtements qu'elles avaient ainsi remodelés. Je trouve que c'est génial parce que c'est à la fois un soutien au projet, c'est aussi une passerelle qui se crée entre les salariés qui sont très bien insérés et qui travaillent pour la Société Générale et ces femmes qui étaient il y a encore peu de temps complètement exclues et très éloignées du marché du travail. Donc voilà, c'est des passerelles, des clins d'œil, des solidarités et des liens qui se tissent. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui, c'est sur le maillage social et les relations qui doivent se tisser entre ceux qui ont la chance d'avoir un travail, d'avoir fait des études et d'avoir des compétences et des gens qui n'ont pas eu cette chance-là mais qui ont aussi leur place dans la société évidemment.
Au bout du compte, ça revient simplement à faire sauter des préjugés parce que une marque de banque, par exemple, à Roland-Garros, ça ne choque personne. Alors après tout, du tissu à la Société Générale, pourquoi est-ce que ça choquerait plus ?
C'est vrai que c'est une question qui se pose et que se posent beaucoup d'ailleurs les fondations. C'est pourquoi on ne nous cite jamais quand on parle de ces projets alors que nous les finançons, etc. Je crois que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a rendu une décision qui autorise justement les journalistes à mentionner les mécènes lorsqu'ils ont soutenu une initiative d'intérêt général. Mais je crois que les journalistes n'ont pas encore compris ça et qu'ils ont l'impression de faire de la publicité clandestine quand ils disent « la Société Générale a soutenu tel projet ». Donc ils sont d'accord pour parler du projet, mais pas forcément de celui qu'ils financent. Et c'est vrai que si on fait ça, à la longue, les entreprises qui ont aussi besoin, elles ne font pas ça pour communiquer, mais elles sont quand même très intéressées qu'on communique sur ce qu'elles font de bien. Voilà, il y a là un petit verrou à faire sauter du côté des journalistes. Alors c'est vrai que ça peut être aussi dans notre mission de Reporters d'Espoir que de faire passer le message auprès des journalistes qui sont nos interlocuteurs de tous les jours, de leur faire comprendre qu'ils ont droit. Ils ont droit parce qu'ils ne le savent pas, je crois, de mentionner des entreprises et des marques à partir du moment où elles ont financé un projet d'intérêt général.
Mais surtout que faire de la publicité à l'antenne, ça revient plutôt à faire de la publicité pour quelque chose où soi-même, on a eu un intérêt personnel. Et là, c'est bien plus douteux. Alors moi, je n'ai pas d'intérêt personnel. On va faire de la publicité un petit peu non clandestine pour l'ouvrage que vous publiez.
Alors, de la publicité, très volontiers. Ce livre s'appelle « Fondation solidaire pour l'emploi », avec un sous-titre que je trouve très... qui donne envie de rentrer dans ces histoires, parce que le sous-titre, c'est « Des histoires, des possibles ». Et effectivement, c'est une vingtaine d'histoires, évidemment des histoires vraies, sur 20 projets, aussi originaux que celui dont je viens de parler sur Tissons la solidarité, qui consiste parfois, par exemple, à recycler des objets et à en faire des œuvres d'art ou des objets de décoration. Voilà, il y a toujours des très bonnes idées derrière tout ça, des idées qui permettent à la fois de s'adresser aux problèmes d'environnement, aux problèmes évidemment sociaux et sociétaux que représente l'insertion. Voilà, on est vraiment dans la façon de faire face, de façon astucieuse, intelligente, innovante, de faire face aux enjeux de demain. Et voilà, c'est quelque chose qui est très porteur et qui donne envie d'agir et de se mettre soi-même dans ce contexte d'innovation et de recherche de solutions par rapport aux défis et aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.
Et où est-ce qu'on trouve ce livre ?
Je voudrais dire un mot tout de même. Je trouve que aussi formidable, aussi précieux que soient tous ces efforts dont on a parlé, ça ne devrait pas être un prétexte, un alibi pour l'État de se désengager complètement. La solidarité nationale, elle doit s'exprimer aussi par l'État, par les collectivités territoriales, et ça deviendrait tout à fait regrettable si, à la faveur de ou à la défaveur de la crise, on voyait l'État se désengager. Les fondations, l'épargne solidaire, les bénévoles, ça doit faire de plus en plus, mais ça ne peut pas faire seul. Il y a une solidarité nationale qui doit s'exercer.
C'est le sens même de l'État, parce que si l'État ne sert plus à rien, s'il ne remplit pas cette mission de créer de la cohésion sociale. Donc c'est vrai qu'il ne faudrait surtout pas que cette reprise en main des choses nécessaires, rendue nécessaire par la crise, par d'autres acteurs, serve à justifier le fait que l'État ne fait plus rien et se contente de ses fonctions régaliennes qui ont de moins en moins d'intérêt aujourd'hui dans un monde mondialisé de toute façon.
Où est-ce qu'on vous retrouve ? Où est-ce qu'on trouve le livre ?
Alors, ça, c'est une bonne question. Je crois qu'il faut contacter en fait les fondations qui sont les diffuseurs de l'ouvrage. Nous, on en a quelques-uns aussi, donc on peut se les procurer en passant à Reporters d'Espoir. Voilà, mais on ne le trouvera pas en librairie, malheureusement, pour l'instant en tout cas.